Viguet, roman de Frédéric de Lignières, édition Landriag, d'ici et d'ailleurs. Chapitre 1. Tout commença de la façon la plus ordinaire. J'étais officier de marine, je venais d'arriver à Dakar et j'avais laissé ma famille en France. Je cherchais une bonne, une fatou comme on disait alors au Sénégal. Et j'avais demandé à Abby, la servante de mon voisin, si elle connaissait une femme qui pourrait convenir. Celle-ci vint me présenter Biguet, qu'elle disait être sa cousine. Dès que je vis Biguet, je la désirais. Je fus surpris moi-même par l'intensité de cette attirance physique. La jeune femme me faisait l'effet d'un beau fruit pulpeux et mûr à point. La tentation d'y planter mes dents était irrésistible. Et son large sourire, à la fois timide et franc, était une invite que je savais d'avance être incapable de décliner. Mais, passé cette flambée de sensualité, je me sentis agacé. Je revenais de la cérémonie de présentation à mon amiral et j'étais encore en grand uniforme, cravaté serré et sabre d'apparat au côté. Par cette chaleur, la sueur me coulait le long du dos et c'était très inconfortable. Je n'avais qu'une hâte, passer sous la douche et me mettre en short. Mais, alors que nous étions debout en plein soleil, Abby me tenait de longs discours. Elle me précisait que Biguet ne pourrait venir que si je la logeais. Et elle insistait afin que je leur montre la chambre où elle allait habiter. Mais, fis-je hésitant, je n'ai pas de chambre de service. Si, si, patron, tu en as une. Ta maison est la même que celle du commandant Estève. Et moi, là, dans l'appartement à côté, j'ai une chambre où je dors. Laisse-nous entrer et je vais te montrer. Abby nous mena dans un réduit étroit dont la lucarne s'ouvrait sur le toit plat du bâtiment du rez-de-chaussée. À cette vue, je me sentis envahi de honte car la pièce, où régnait une chaleur étouffante, était sale et encombrée d'objets au rebut. J'avais d'ailleurs toujours pensé qu'il s'agissait d'un débarras et n'avais jamais imaginé d'y loger qui que ce soit. « Tu vois, patron, » dit Abby, « comme ça, elle peut commencer chez toi dès aujourd'hui. »« Mais la pièce n'est pas en état, et puis il n'y a pas de lit. » »« T'inquiète pas, elle va nettoyer et commandant Estève peut prêter un matelas. » Je me tournai vers Biguet qui se tenait en retrait, les yeux baissés. « Et toi, qu'en penses-tu ? » Elle releva lentement les paupières et, quand elle me fixa, j'eus l'impression de me noyer dans un lac d'ombre. Un sourire timide s'amorçait sur ses lèvres. « Ça va aller comme ça, » dit-elle dans un français hésitant et d'une toute petite voix. Volubile, Abby vint se placer entre nous. « Tu sais, patron, Biguet, elle vient de Casamance, il n'y a pas longtemps. Elle parle pas français encore comme il faut, mais elle fait bien le ménage et le repassage. Tu la gardes et tu la nourris toute la semaine. » Et le samedi après-midi, tu lui donnes son congé pour qu'elle vienne avec moi chez la tante. Pour son salaire, tu la paies chaque semaine. C'est 30 francs. Non, 25, m'insurgeais-je. Commandant Estève te paie 25. Abby eut un rire gêné. Moi, je travaille depuis 2 ans. 25, c'est le prix il y a 2 ans. Mais bon, d'accord, 25. Si elle revient chez toi, que le lundi matin. Et pour la cuisine ? Suivit une conversation au Wolof entre les deux jeunes femmes qui semblaient se disputer. Puis Biguet dit doucement, presque honteuse, « Je sais seulement cuisine Wolof. Eh bien, je t'apprendrai la cuisine des Toubabs et tu me feras goûter celle de la Casamance. » Nous nous mîmes à rire tous les deux, tandis qu'Abby prenait un air vexé. « Bon, tu veux vraiment commencer dès aujourd'hui ? Tu risques de ne pas être très confortable. » « La tante, » commença-t-elle, aussitôt interrompue par Abby. C'est bien pour elle commencer aujourd'hui lundi. Comme ça, elle a l'argent fin de semaine. Et t'inquiète pas, patron. Sa chambre, elle sera très bien quand on l'aura arrangée toutes les deux. Eh bien, si vous croyez que cela convient, je vous laisse l'installer pendant que je vais prendre ma douche. Les deux jeunes femmes passèrent l'après-midi à nettoyer la chambre. J'entendais leurs rires et leurs allées et venues d'un appartement à l'autre. En fin de soirée, j'eus la visite d'Estève qui apporta un liquage et un matelas. Estève pouvait me donner ce meuble qui ne servait plus depuis que son jeune fils s'était retourné en métropole. Ce lit en fer, qui provenait probablement d'un surplus militaire, était ancien et d'un kaki triste, mais, quand il fut déplié, je constatais qu'il était encore solide et que le sommier en métal tressé ne semblait pas abîmé. Par contre, le matelas en laine me sembla bien affaissé, quoique assez propre. Lorsque j'eus installé le lit avec l'aide d'Estève, je donnai à Biguet des draps et un oreiller, ainsi qu'un couvre-lit de coton que je pris dans ma propre armoire. Autant pour remercier mon camarade que pour retarder le moment où j'allais me trouver seul avec Biguet, je voulus inviter Estève à prendre un apéritif. mais il déclina car il était pressé de rejoindre des amis avec lesquels il devait passer la soirée. Estef proposa à Abby de la déposer quelque part et ils partirent tous deux. Quand ils refermèrent la porte du jardin, je restai seul avec Biguet dans la maison. Comme toujours sous les tropiques, la nuit tomba brusquement. J'étais assis sur la terrasse et sirotais une bière, tandis que Biguet s'était caché dans sa chambre. Elle n'en finissait plus de ranger les quelques affaires personnelles que contenait le baluchon qu'elle avait apporté. Surpris par la venue de l'obscurité, je me secouai et me dirigeai vers la cuisine pour allumer la lumière. Puis j'appelai Biguet. Sa chambre ouvrait sur la terrasse et jouxtait la cuisine. La jeune fille entr'ouvrit timidement sa porte. « Toi, appelé, patron ?»« Oui, viens voir, je vais te montrer comment préparer le riz à ma façon. » Biguet se dirigea vers la cuisine en traînant les pieds. Il me sembla qu'elle s'approchait comme à regret. De mon côté, je me sentais intimidé par la proximité de cette jeune fille. Cela me rendait emprunté et maladroit. Je craignais que Biguet ne s'aperçoive de mon trouble. Biguet se mit à rire quand j'entrepris de lui montrer comment préparer le riz. « Mais ça, je sais, on en cuit tous les jours à la maison. Et les côtelettes d'agneau, tu sais les faire ?» Biguet regarda d'un air médusé la viande que je venais de sortir du grand réfrigérateur américain. « Moi, jamais encore vu ça. » « Mais si, dis-je, tu as bien dû en voir quand vous faites le méchoui. Seulement le mouton n'était pas découpé pareil. » Quand je lui montrai comment allumer le gaz et faire rôtir l'agneau sur le grill en fonte, nous nous amusâmes de bon cœur, tous les deux, de nos maladresses. Cela fit tomber la tension nerveuse que je sentais palpable et contribua à détendre l'atmosphère. Je décidai de dîner sur la terrasse. Quand j'y apportai deux couverts, Biguet s'étonna. « Toi, attendre quelqu'un ?»« Non, pourquoi ?» Elle marqua visiblement une hésitation emplie d'incrédulité. Abby, dire-moi manger dans la cuisine. Mais il n'en est pas question. Tu vas manger à table avec moi. On ne va tout de même pas manger chacun tout seul dans son coin. Je la sentis plus qu'incertaine, confuse et gênée, flattée aussi, peut-être. Cela raviva le désir que j'avais ressenti pour elle dans l'après-midi. Je tirai sa chaise. Allez, ne sois pas timide. Viens t'asseoir avec moi, le temps que le riz cuise. Veux-tu un verre de vin ? Non, merci. Musulmane, pas boire d'alcool. Comme tu voudras, dis-je en me versant un verre de rosé. Nous demeurâmes dans un silence embarrassé un long moment. Sans doute pour le rompre, quand elle estima que le riz devait être cuit, Biguet se leva et gagna la cuisine. Elle en revint en apportant notre repas. J'aurais souhaité lui faire comprendre que j'avais envie d'elle et que, cette nuit, j'aimerais venir la rejoindre dans sa chambre. Mais je ne savais comment le faire sans paraître trop goujat. Alors que d'ordinaire, je n'étais pas du tout intimidé par les femmes, elles m'en imposaient. Sa féminité en plein épanouissement rendait sa chair désirable et ses charmes étaient tellement différents des allures enfantines des jeunes indochinoises que j'avais connues lors de mes séjours à Hanoï. Au lieu de cela, je lui parlais du projet, un peu fou, que j'avais formé pour ma fille. Ma famille me manquait lors de ces séjours prolongés aux colonies. Et ma femme étant dans l'impossibilité de me rejoindre, tant qu'elle n'obtenait pas une mutation, j'envisageais de faire venir ma fille avant sa mère. Xavier n'avait pas encore 10 ans et terminait sa dernière année à l'école primaire. Sa scolarité ne serait guère affectée par sa venue à Dakar à la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Pour ce qui était de l'entrée en 6e, le lycée Van Vollenhoven avait, ici, bonne réputation. Et surtout, Gaëlle, ma femme, n'était pas contre cette solution. Encore fallait-il trouver quelqu'un de confiance qui veuille bien s'occuper de Xavier lorsque je serai au travail. Quand j'évoquai cette question, je sentis immédiatement que Biguet était plus que réticente. « Cela te paraît difficile de devoir t'occuper d'une enfant, en plus du ménage et de la cuisine ?» Devant mon insistance, elle demeura silencieuse et baissa les yeux, le visage fermé. « Tu sais, Xavier est très sage et très affectueuse. Tu pourrais être un peu comme une deuxième maman pour elle. » « C'est pas ça, patron, » finit-elle par dire avec hésitation. « Eh bien, c'est quoi alors ? Tu sais, si tu ne veux pas, je ne vais pas t'obliger. » Suivit un grand silence, Biguet baissa les yeux, les bras croisés sur sa poitrine, réfugiée en elle-même. Ne sachant que faire et le repas étant achevé, je me levai. Elle se leva aussi et relevant la tête, murmura comme angoissée. « C'est la tante. »« Ta tante ? Eh bien, ta tante, qu'est-ce qu'elle a à voir dans nos arrangements ? Cela ne la concerne absolument pas. » Biguet se détourna pour desservir la table et gagna la cuisine. Arrivée sur le seuil de la pièce, elle s'arrêta et dit « T'en occupe pas, ça tu peux pas le comprendre, patron. » Je pris cela pour une lubie ou pour une façon de faire augmenter ses gages. Il faut dire que j'étais plus occupé à imaginer un moyen de satisfaire le désir que m'inspirait Biguet que par sa conversation. Ce n'est que bien plus tard que je devais saisir la portée de ses remarques.